Bonjour et bienvenue à tous pour cette conférence de l'écriture au scénario. Je suis désolé si par exemple vous pensiez que Serge Lehmann était présent pour cette conférence, mais il y a eu des soucis de transport et il n'a pas pu venir. Bonjour Pierre-Marc. Voici le dernier auteur qui manquait pour boucler la présence des auteurs à cette table ronde. Donc nous avons remplacé Serge Lehmann par Alain Damasio, qui est très content d'être ici. Nous avons mon Christophe Lambert qui est auteur, et Pierre Pograndors qui est également auteur de BD, scénariste et réalisateur. L'écriture est une chose qui se pratique depuis des siècles, et la forme romanesque est très courante depuis à peu près 200 à 300 ans. Le cinéma est un nouvel art relativement nouveau par rapport aux autres formes artistiques. Et l'intérêt de cette conférence, c'est de savoir si les liens qui unissent de plus en plus ou de moins en moins le jeu de miroir qu'il peut y avoir entre eux, ces deux médias qui cohabitent soit de plus en plus, soit de moins en moins. Je ne sais pas si vous avez déjà des idées, des pistes de réflexion par rapport à ce préambule. Toi qui es scénariste, réalisateur par exemple.
Mais je me demandais effectivement de quoi on allait parler, parce que l'exposé de la conférence disait qu'il y avait peut-être de moins en moins de distance entre le roman et le scénario, ou entre la littérature et l'écriture pour l'écran. J'ai pas une réponse claire par rapport à ça. J'ai l'impression que depuis qu'il existe, le cinéma a toujours été inspiré par toutes les autres formes littéraires, que ce soit le roman ou le théâtre ou le conte, et ça a toujours existé. Je ne sais pas si c'est plus qu'avant maintenant. C'est vrai qu'on voit de plus en plus d'adaptations, de plus en plus de scénarios qui sont inspirés soit de romans, soit de bandes dessinées. Aux États-Unis, il y a une énorme vague sur les Marvel, etc. Et tout. La question intéressante est peut-être dans l'autre sens, de savoir si le langage cinématographique influence la littérature, s'il y a une manière littéraire de raconter qui est plus influencée par la narration cinématographique, le découpage, la manière de faire. Moi, je suis ravi, c'est une excellente surprise pour moi de savoir que M. Damasio est présent, parce que je suis un fan absolu de La Horde du Contrevent. Et c'est mon dernier choc littéraire pratiquement, parce que j'ai lu un peu tardivement par rapport à la sortie, et je trouve que par exemple c'est une écriture qui est assez épatante, parce qu'elle est à la fois très très littéraire et en même temps elle est quasiment cinématographique. On est immergé dans l'action presque en permanence, et donc ça m'intéresse de voir jusqu'où effectivement le cinéma est une source d'inspiration stylistique pour quelqu'un comme vous.
Ça me donne l'occasion de relancer tout de suite, parce qu'effectivement il y a un film justement d'animation qui est en cours de développement sur La Horde du Contrevent, hein, qui sera a priori réalisé par Yann Kounen et sous la direction artistique de Marc Caro, quoi. Donc on a vraiment du beau monde. Et en ce moment, les jours derniers et pendant 10 mois, je travaille sur la scénarisation justement du livre. Alors moi, je suis toujours surpris quand les gens me disent que La Horde est très cinématographique, parce que je suis quelqu'un qui est très peu visuel. Et ce livre, si vous regardez attentivement, est très peu porté visuellement. Il y a en fait un personnage dans La Horde qui est dévolu à la vision, il s'appelle Pietro. C'est-à-dire que quand j'arrive sur ce personnage, j'avais décidé dès le début du livre que c'est lui qui allait porter les visions. C'est-à-dire que dès qu'il s'exprime, on a des indications sur la géométrie, sur la lumière, sur les couleurs, sur toute la dimension optique de la perception. Et par contre, les autres, parce que moi je suis plus naturellement un auditif, les autres sont effectivement sur l'auditif, le kinesthésique, la perception des volumes, du poids, de l'odeur, etc. Et je me rends compte, parce que c'est pas la première fois qu'on me dit ça, que à travers les autres sens, à travers ce que j'ai mis en termes justement de masse, de volume, de sensation, de fatigue, de granularité, de texture, ça parle aussi visuellement. C'est-à-dire à travers les autres sens, la vision se reforme. Et elle se reforme autrement, et peut-être de façon moins cliché, parce que justement, je ne suis pas du tout dans l'optique, quoi. Et ce qui fait que ça me pose, moi, effectivement, la scénarisation me pose des problèmes dans le passage au visuel, parce que je ne vais pas utiliser du tout les mêmes sens, quoi. Donc ça, c'est effectivement assez problématique pour moi sur cet axe-là.
Mais pour rebondir là-dessus, je dirais que c'est sans doute... On a tendance à oublier que le cinéma est aussi un art du son, énormément, et qu'en fait, peut-être que ce qui donne cet aspect-là, c'est qu'effectivement, on est dans une ambiance sonore, ce vent souffle en permanence, et il est là, et il nous immerge dans un côté concret, et c'est vrai que le cinéma va toujours plus vers le fait d'oublier qu'il n'est qu'audiovisuel. On essaie de nous suggérer presque tout, le toucher, les odeurs, de plus en plus aussi. Ça reste limité de ce côté-là, mais quand on est immergé à ce point-là dans un livre, on fait référence au cinéma parce que c'est une forme d'immersion particulière. Donc maintenant, il y a aussi, pas uniquement dans votre manière d'écrire, mais dans la manière de la découper, de passer par exemple d'un point de vue à un autre et de découper l'action, la manière de faire des ellipses et des choses comme ça. Est-ce que pour vous, l'écriture cinématographique est quelque part, à votre avis, une source d'inspiration? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui dévorait beaucoup de films?
Non, je suis pas un gros cinéphile, je suis pas non plus un gros lecteur. En fait, c'est marrant, j'ai eu une seule fois une inspiration réellement cinématographique dans mon premier roman. En fait, c'était à partir de Tueur Né le nom m'échappe, c'est bien, d'Oliver Stone. Et c'est un film qui m'avait beaucoup impressionné à l'époque. Et il y avait quelque chose qui m'avait fasciné, une idée de cinéma toute simple, mais qui m'avait fasciné et dont j'essayais de trouver l'équivalent en littérature. C'était que toutes les scènes d'action les plus gore, les meurtres les plus sanglants du film étaient passées en noir et blanc. Donc on avait des scènes en couleur comme ça. Et tout d'un coup, il y a un meurtre, je ne sais pas si vous vous souvenez du film, un meurtre dans une station service comme ça, qui est assez ignoble. Et tout d'un coup, il fait passer l'image en noir et blanc, alors que ce moment gore, on l'attendrait au contraire en couleur et de façon excessive et rougeâtre comme ça. Et ça m'avait beaucoup intéressé parce que je trouvais que justement, il donnait une dimension beaucoup plus poignante, sobre, et en même temps presque historique, en passant comme ça au noir et blanc au moment du crime. Et ça m'avait beaucoup interrogé, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un équivalent littéraire à ça? Et finalement, je l'ai trouvé à ma façon, et je trouve que c'est intéressant, c'est que j'ai une scène d'action comme ça dans la zone du dehors où il y a l'attaque d'une tour télé par un groupe révolutionnaire, et c'est narré donc par plusieurs personnages, et il y a un des personnages, quand il est en narration, il passe du présent à l'imparfait ou au passé simple. Donc j'ai un bossellement comme ça dans le paragraphe, c'est-à-dire que j'ai une première phrase au présent de l'indicatif, et tout d'un coup, on passe, mais imperceptiblement, à l'imparfait, au passé simple, et on remonte au présent. Et je joue des effets comme ça de décalé, avec quelque chose d'extrêmement intense quand je passe au présent de l'indicatif, et puis quelque chose qui recule dans l'imparfait, où donc c'est plus voilé, mais en même temps, ça donne immédiatement une dimension épique et historique au passage. Et j'aimais bien ce fait de jouer avec les deux dimensions. Et c'était pareil dans le film d'Oliver Stone, c'est-à-dire que le moment où il passait en noir et blanc, c'était tout de suite une image d'archive. Le meurtre était déjà un moment de l'histoire, était déjà une image d'archive. Et quand il repassait au présent, on était effectivement au présent avec les personnages. Et cet effet pouvait être retrouvé en jouant avec les temporalités. Et j'étais content parce que personne ne m'a jamais parlé de ce passage-là. Ça veut dire qu'il passe dans le sang du lecteur sans être remarqué. Et à mon sens, ça fonctionne et ça me permet de créer des reliefs comme ça et des creux dans le... Et là, c'est vraiment le cas d'une idée cinématographique que j'ai transcrit. Mais moi, vous savez, je suis vraiment... j'avais été très frappé par une conférence de Deleuze à la FEMIS sur la différence justement entre littérature et cinéma. Et il disait une chose extrêmement simple, mais qui, moi, m'a toujours fait cogiter. Il disait, quand on adapte un livre, c'est-à-dire qu'on passe d'une idée de littérature, une idée de matière littéraire, à une idée de cinéma. Et ça ne peut pas être transposé. C'est impossible de transposer, on ne peut pas faire d'analogie. On est obligé de trouver une idée de cinéma aussi forte, aussi intéressante que l'idée de littérature, mais avec des moyens parfaitement différents. Et si on ne s'interroge pas à l'intérieur du médium sur les moyens de restituer l'idée de littérature, on est mort. Alors je suis désolé, je prends beaucoup de temps, mais je vais vous donner un exemple sur La Horde. Sur La Horde du Contrevent, pour ceux qui l'ont lu, il y a une polyphonie. C'est-à-dire que chaque personnage, il y a 23 personnages, et on a 6, 7 narrateurs. qui à tour de rôle s'expriment et expriment la réalité du monde à travers leur regard, leur style, leur vision, etc. Et cette circulation entre les narrateurs, moi, ça me permettait de faire du lecteur une sorte de 24e ordier, parce que en passant d'une tête à l'autre, c'est lui qui faisait le chemin entre les personnages, c'est lui qui circulait à travers les personnages, et c'est lui qui assurait le lien entre les narrateurs. Et du coup, cette volonté que j'avais dans ce livre de témoigner du lien, de faire de l'enjeu du lien quelque chose de fort, était assurée par le lecteur, par la circulation entre les différents pôles narratifs. Et c'était une vraie idée littéraire. C'était une vraie idée littéraire de créer cette polyphonie et de faire assurer le lien par le lecteur entre les lignes comme ça. Je pense que c'est un des rares trucs qui est vraiment réussi dans le bouquin. Et par contre, quand on est arrivé au bouquin, au film, j'ai dit à Yann Kounen, j'ai dit à l'adaptatrice, je lui ai dit, voilà, j'aimerais travailler sur l'enjeu du lien dans le film. Et j'ai commencé à dire à Yann Kounen, est-ce que tu serais capable de me faire que des vues subjectives? On est dans un personnage d'Orochi et on voit le monde à travers les yeux d'Orochi. On voit les flux de vent, on voit les vifs. Ensuite, on passe à Golgoth et on voit des aplats noirs et blancs, comme ça. On voit juste la trace avec de la lumière, de l'ombre. C'est un monde binaire, manichéen. Et c'est sa vision subjective. Puis on passe à Caracol, on voit tout en couleur, etc. Je dis, est-ce que tu es capable, en plus c'est un film d'animation, est-ce que tu peux pas partir là-dessus et me faire une vision subjective pour chaque personnage, comme si on avait un réalisateur par personnage? Et il me dit, c'est une très belle idée, tu vois, il me regarde, il fait comme ça, il me dit, ouais, c'est une très belle idée, mais il me dit, honnêtement, je pense pas que ça fonctionnera au cinéma. On va le faire à certains moments, mais on peut pas se permettre de faire ça, quoi. Et donc, on est parti sur une autre façon de traiter le lien dans le film, qui va être avec des moyens strictement cinématographiques, quoi. Donc, là, j'avais tenté de transposer en me disant, moi, j'ai des points de vue subjectifs, et ben on va faire pareil au cinéma, on va prendre autant de réalisateurs qu'il faut, autant d'images avec une photo particulière qu'il faut. Mais non, et je pense qu'il a raison, Yann Kounen, ça ne fonctionnerait pas comme ça. Voilà, excusez-moi, j'ai monopolisé.
Non, c'est passionnant.
C'est passionnant. Je me posais aussi une question, par exemple, Christophe, toi, quand tu écris tes romans, quand tu réfléchis, est-ce que tu penses parfois d'abord en images cinématographiques? Est-ce que le cinéma, le code du cinéma t'influence dans tes thèmes d'écriture et dans ta stylistique, par exemple?
Dans les thèmes, oui, c'est possible, bien que ce ne soit pas systématique. Hein, les idées peuvent venir d'un reportage à la télé, d'un article dans le journal ou d'un film. Peut-être ça sera juste une séquence et on se dit c'est dommage, le réalisateur ne l'a pas développé. Et à partir de là, une sorte de réaction en chaîne se met en place et on remet tout ça à notre sauce et on développe un autre récit. Pour ce qui est de la forme, oui, ça m'influence indiscutablement, parce que moi j'ai fait des études d'audiovisuel, je suis, contrairement à toi, très branché visuel. J'ai une imagination avant tout visuelle, et je suis un réalisateur frustré, donc tous les films dont j'ai rêvé quand j'étais pré-ado, ado et jeune adulte, je peux à présent les recycler, avec cet avantage que nous offre la littérature, c'est qu'on peut avoir une armée de 40 000 guerriers qui assiègent une citadelle, ça ne coûtera que le prix de l'encre dans l'imprimante, et on n'aura pas besoin d'avoir soit des figurants, soit des images de synthèse. Pareil pour une armada de vaisseaux spatiaux dans l'espace. Et pour ce qui est de la syntaxe, c'est vraiment de la grammaire cinématographique et de la manière de la retranscrire par les mots. Moi, c'est vrai que dans les critiques, les chroniques, l'adjectif qui revient le plus souvent pour qualifier mon travail, c'est cinématographique. Donc j'ai fait 3 ans d'études audiovisuelles après le bac. Et le fait est que quand j'imagine une scène, j'imagine le montage et le découpage. Très nettement, très clairement. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que moi je fonctionne. Et j'essaye ensuite, à travers les paragraphes, la manière dont je fais des césures, la manière dont je dispatche la ponctuation, j'essaye de restituer, de faire de la transmission de pensée, de restituer le film mental que j'ai dans la tête auprès du lecteur. Alors pour vous donner un exemple, j'ai amené Zulu Kingdom. Il y a une scène de bataille dans Zulu Kingdom. Alors bien sûr, la source d'inspiration, c'est le film Zulu des années 60 et l'ultime attaque des années 70, qui relate la bataille d'Isandhwana, où les Anglais se sont fait tailler en pièces par les armées du roi Cetsewayo, au Zululand donc. Et je voulais retranscrire... Donc je vais vous lire l'extrait et après je vais vous dire quel découpage j'avais en tête au moment où je l'ai écrit et comment je me suis organisé. Voilà, il faut juste que je trouve la page. Voilà. Donc là, imaginez les soldats en uniforme rouge qui sont alignés, fusils au poing, qui sont plusieurs centaines face à une marée noire de plusieurs dizaines de milliers de guerriers zoulous qui chargent et qui vont leur tomber dessus. Donc. La crue vengeresse se rapproche, plus que 300 mètres, 250. Feu ! Détonation simultanée. 30 Zoulous partent en culbute arrière, comme si une longe tendue à l'extrême les stoppait net. Deuxième ligne en joue. La première rangée de soldats s'efface pour recharger. Feu ! De nouveau, l'élan de l'ennemi est brisé. Les balles se fracassent contre les os, les boucliers traversent les chairs en provoquant des blessures effroyables quand elles ressortent. Première ligne en joue. Des fusils se lèvent, d'autres s'abaissent. La mécanique militaire est bien huilée. Feu ! Les douilles éjectées tombent dans l'herbe. Les ennemis aussi. Pour chaque guerrier touché, il y en a 10, 100 qui arrivent, emportés par la folle ruée. Ils piétinent les corps de leurs camarades, pas de ressac. Les Anglais frémissent, autant jeter des cailloux dans la mer en espérant stopper la montée des eaux. Recharger, deuxième ligne en joue, etc. etc. Donc déjà, il y a pour faire passer l'idée de feu roulant, qui est typique de l'époque militairement parlant, il y a cette espèce de côté mécanique, froid, feu, recharger, tac, tac, tac. Donc, quand par exemple j'ai un personnage qui crie feu, là je vois un plan poitrine ou un gros plan sur l'officier. Ensuite j'ai détonation simultanée, point, 30 Zoulous partent en culbute arrière, comme si une longe tendue à l'extrême les stoppait net. Là le point pour moi fait passer le cut entre le champ où vous avez les soldats qui tirent et le contre-champ où vous avez la rangée de Zoulous qui part en arrière. J'ai pas voulu faire une phrase continue ou avec une conjonction de coordination. J'ai voulu qu'il y ait un cut. Ça, c'est pour faire passer l'idée de rupture. Ensuite, vous avez la deuxième rangée de soldats s'efface pour recharger. Donc là, on imagine les gars qui sont à genoux, qui vont à l'arrière, et ceux qui étaient au deuxième rang, qui pillent genoux au sol et qui braquent leurs armes. Feu. À nouveau, un insert sur une bouche qui gueule. Feu. De nouveau, l'élan de l'ennemi est brisé. Les balles se fracassent contre les os, les boucliers traversent les chairs en provoquant des blessures effroyables quand elles ressortent. Donc là, on a plus un point, mais on a une série de virgules. C'est pour faire passer l'idée d'un cerf. Vous aurez plusieurs gros plans sur les impacts de balles. Genre un chapelet de 4-5 gros plans sur les balles, sur les boucliers ou sur les torses des pauvres gars qui se font laminer. Donc première ligne en joue, on repasse sur un officier, des fusils se lèvent, d'autres s'abaissent, ben là, on imagine un plan un peu à la Spielberg. Souvent dans Spielberg vous avez des entrées de champ entre l'arrière-plan et le premier plan, vous avez un changement de mise au point. Donc là on imagine les fusils qui se baissent et d'autres qui se lèvent avec changement de mise au point. Enfin, voilà ce que moi j'imaginais quand j'ai écrit la scène et voilà comment j'ai essayé de le faire passer.
J'avais la même question pour Pierre Pogranders. Du fait de tes activités de réalisateur, mais aussi de BDiste, est-ce qu'il y a une vraie porosité entre tes deux activités, ou, enfin, du fait d'utiliser ces deux médias de manière pas simultanée, mais dans ta vie quotidienne, est-ce que tu as des conséquences qui arrivent qui t'arrivent directement, que tu essayes de retranscrire dans la bande dessinée, ou est-ce que tu, au niveau des cadrages, tu t'inspires de la bande dessinée, par exemple, pour tes activités audiovisuelles?
Moi, pour la bande dessinée, je suis purement scénariste. Donc, on va dire que je suis venu plutôt sur le tard à la bande dessinée, en venant d'abord d'une formation de cinéaste. Donc, je dois faire un grand apprentissage pour apprivoiser ce média, même si j'en suis lecteur depuis très longtemps. Mais on se rend très vite compte qu'en fait, même si il y a un cliché qui veut que la bande dessinée soit une sorte de charnière entre le cinéma et la littérature sans images, c'est complètement faux. En fait, c'est vraiment un genre à part entière, avec une narration qui est tout à fait typique, un usage de l'ellipse qui n'a rien à voir avec l'ellipse ni en littérature ni en cinéma. Et
l'usage du point de vue est différent aussi, parce qu'au cinéma, vous avez une articulation au point de vue entre le bonhomme qui regarde et son point de vue. Oui. Alors qu'en bande dessinée, on a souvent une amorce, épaule, où le personnage est dans son propre point de vue.
Oui, tout est possible en découpage de bande dessinée, mais c'est surtout réellement la manière dont on construit la séquence l'art séquentiel, hein, comme le décrit très bien Eisner, et enfin les quelques bouquins qui sont sur les vraies théories de la bande dessinée, montrent que c'est vraiment un art à part entière et qui a en fait assez peu de points communs, pas plus de points communs qu'avec la littérature, quand Christophe explique comment le cinéma peut influencer son écriture. Oui, on peut être influencé par des manières de découper, mais dans la narration même, c'est complètement différent. Dans les dialogues, on ne peut pas écrire les mêmes dialogues qu'au cinéma pour de la bande dessinée, ni les mêmes qu'en littérature. C'est vraiment fondamentalement différent. Donc c'est très intéressant de se confronter à ça, parce que ça permet d'autant mieux de comprendre ce qu'on fait en cinéma quand on fait de la bande dessinée, et d'autant mieux, ben, quand on a les deux, on creuse quelque chose qui est difficile à expliquer en deux mots comme ça, mais qui est vraiment très très gratifiant, parce que on sent qu'on apprend une manière différente de raconter une histoire. Ceci dit, pour continuer sur la manière dont la grande, grande différence malgré tout qui reste avec le cinéma, c'est la liberté qui est laissée au lecteur, qu'il n'a pas quand il est face à un film. Dans un film, le spectateur n'a pas le choix de la vitesse de narration, il est emporté dans une temporalité qui est prédéterminée. Quand on lit La Horde, on peut s'interrompre quand on veut pour aller voir quel personnage, on peut repartir en arrière. Au début du bouquin, on va un petit peu chercher, etc. On va voir la liste des persos, ils commencent à prendre visage au fur et à mesure. Et il y a une interaction comme ça qui fait qu'effectivement, le lecteur participe au livre de la même manière qu'il va participer à une bande dessinée. Son rythme de narration, la manière dont il capte d'abord la planche, dont il revient peut-être en arrière, il joue avec le média. Tout ça, en cinéma, c'est absolument impossible, et ça reste intrinsèquement des différences qui seront jamais réduites, qui font vraiment des grosses grosses différences sur la manière de raconter.
Je suis complètement d'accord avec ça, et puis enfin vraiment, si on prend les trois médiums, si on prend le littéraire, la BD et le cinéma, moi je suis très impressionné par la BD, parce que justement quand tu le disais, la puissance d'ellipse est colossale, quoi. C'est-à-dire que moi j'appelle ça la puissance du caniveau. Vous savez, le caniveau, c'est le petit trait blanc qui sépare deux cases dans une BD, quoi. Et c'est, je crois que c'est Esner qui dit ça. Il dit, dans ce tout petit espace blanc qui sépare deux cases, il y a toute la puissance de l'imaginaire. C'est vous qui recréez tout ce qui sépare les deux cases, quoi. Et du coup, en fait, l'activité imaginative du lecteur en BD, elle est beaucoup plus forte qu'en cinéma. Même si au cinéma il y a les ellipses, etc. Mais le cinéma, vous êtes dans ces schèmes stimuli-réactions où constamment vous êtes porté dans l'enchaînement des images, dans le fleuve, quoi, et on vous porte, quoi. Même si les grands films, c'est justement ceux qui arrivent à créer une sorte d'image-temps où tout d'un coup, entre deux plans, quelque chose s'ouvre, et dans ce qui s'ouvre, votre imaginaire se déploie. Mais c'est beaucoup plus naturel en BD, et c'est encore plus naturel en littérature. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une grosse différence. En BD aussi, il y a aussi l'aspect que la double page crée une sorte de simultanéité. On peut voir beaucoup de choses en même temps sur la double page, ce qui n'est pas le cas évidemment au cinéma, où vous êtes sur l'image qu'on est en train de vous offrir. En littérature, on peut le faire aussi en poésie, enfin, Mallarmé l'a fait en créant comme ça des poèmes où la dimension visuelle et simultanée de la page a une réelle importance, mais sinon, bon, ben voilà, on lit linéairement, on lit de haut en bas comme ça, de façon assez directe, quoi. Mais c'est très différent. Je pensais aussi au dialogue, parce que les gens ne se rendent pas compte peut-être de ça, mais c'est vrai qu'il y a une fondamentale, et moi j'ai pas encore compris pourquoi, mais il y a une fondamentale différence entre les dialogues que je fais en roman, les dialogues que je vais poser là pour le film, et les dialogues, moi j'ai fait une seule fois une BD, et les dialogues qu'on pose en BD. Chaque fois que j'ai posé des dialogues en BD, une fois que l'image arrivait, je me disais, c'est lourd ce que je fais, mais c'est nul, quoi, c'est pas possible. Parce que, en fait, ce que j'avais posé, moi, en termes de dialogue, était normalement suffisamment puissant d'un point de vue littéraire pour permettre d'imaginer toute la scène. Mais quand l'image arrivait, que mon dialogue se surimposait à la scène, il devenait soit inutile, soit redondant, soit balourd par rapport à ce que la scène exprimait déjà, quoi. Et donc j'étais obligé de refaire le dialogue derrière pour intégrer la puissance de l'image et ce qu'elle apportait déjà, et pour être beaucoup plus sibyllin, beaucoup plus discret, et amener juste la touche qui permettait de compléter ce que l'image amenait. Et même des fois, je me rendais compte que c'était 10 fois plus intéressant de faire un dialogue qui était très différent, très contrasté, très en dehors de ce qu'on voyait sur la scène. Et ça, c'était beaucoup plus riche quand j'arrivais à faire ça, un dialogue qui se décalait de ce qui était déjà à l'intérieur de la scène. Et le cinéma, c'est encore différent. C'est-à-dire que là, moi, j'ai tendance, et je le vois quand je suis en phase scénaristique comme ça, j'ai tendance à faire des dialogues assez complets, assez riches, quoi, en termes de, en termes de nourriture. Et en fait, quand je reviens sur le visuel et que je me pose vraiment la question de la scène, je me rends compte que la plupart des dialogues que je fais, je pourrais les enlever. Et du coup, je suis en train de réfléchir à enlever le maximum de choses et à faire passer le maximum par le visuel pur, parce que c'est le médium, ou par le son, hein, parce qu'on oublie souvent le son. Et le langage pur, à chaque fois que vous pouvez enlever le dialogue, c'est que votre scène est bonne, en fait. Hein. Et c'est très rare qu'on ait vraiment besoin d'un dialogue très explicité si la scène est bien faite, quoi. Surtout les scènes d'action, quoi. Donc pour moi, c'est très douloureux. C'est très douloureux parce qu'en littérature, au contraire, le dialogue n'étant pas visuellement nourri, c'est-à-dire que vous arrivez sur le segment de dialogue, vous ne savez pas dans quelle position le visage de la personne en face de vous, vous n'avez pas le son, vous n'avez pas l'image, vous n'avez rien, vous n'avez aucune expression qui vient soutenir si la personne fait une blague, ne fait pas une blague, si elle est heureuse d'entendre ce qu'elle entend, si elle n'est pas heureuse. Donc tout doit permettre de comprendre par la simple qualité de la ligne ce qui est dit, reçu, intégré. Vous êtes dans le verbal pur, or le non-verbal dans une communication, vous savez que c'est 70%. Quoi. Là, si on va boire un coup au bar, ce que vous dites est 10 fois moins important que ce que je vais voir de votre visage, de votre attitude, de votre position, de votre gêne ou pas votre gêne, de votre enthousiasme ou pas votre enthousiasme. Quoi. Le non-verbal va occuper 70% de la communication qu'on aura. Et ben, on est dans cette situation en littérature, c'est qu'on est dans le verbal pur, et le verbal pur doit sortir toute la dimension de l'échange. Quoi. Et ça, c'est compliqué. Et quand vous passez d'un médium à l'autre, il faut totalement changer l'approche là-dessus.
Oui, alors, je peux rebondir là-dessus par rapport à la difficulté qu'il y a d'écrire un pur scénario de cinéma, où on est confronté à la même chose, mais on écrit un objet littéraire, mais qui n'a finalement pas d'autre but que de terminer dans la poubelle, en fait, hein, puisque c'est finalement un document de travail. Mais au départ, c'est aussi le document qui va permettre au film d'exister. Et donc, il doit exister en tant que suffisamment explicite et suffisamment évocateur pour que les gens qui le lisent voient le film. Donc, ça arrive souvent qu'on sache, quand on écrit un scénario, qu'on écrit des dialogues, on sait qu'on ne les jouera pas avec les acteurs, parce que ce qui va passer dans leur jeu, et ce n'est pas que dans les scènes d'action, mais quand les acteurs sont là, pour l'instant, vous êtes confrontés avec de l'animation, c'est encore particulier, parce que c'est vraiment très, très particulier, l'animation, mais avec le jeu des acteurs, toutes les intentions sont dans, effectivement, le langage non-verbal, dans les attitudes, les intonations, etc. Et on se rend compte qu'on peut effectivement épurer beaucoup, mais que si on fait un scénario avec, si on refaisait le scénario avec ce qu'on a comme résultat final de film, jamais le scénario ne se serait vendu, il n'aurait pas pu se faire. Donc on doit faire un espèce d'exercice littéraire particulier pour arriver à créer le film avant qu'il n'existe, alors qu'après le scénario ne sera pas exactement celui-là, on ne va pas respecter à la lettre les dialogues, et même on donne par exemple des idées de gestes, on dit qu'il se lève à ce moment-là, ou qu'il a un geste du bras, ou qu'il a une mimique, on est obligé pour qu'on comprenne la nuance, mais au final jamais on va dire à l'acteur, c'est écrit, tu vas faire cette mimique-là, ou tu vas faire ce geste-là, sinon on est à côté de la plaque.
C'est comme pour le storyboard, on est dans un outil de travail intermédiaire, de la même manière qu'un storyboard n'a pas besoin d'être dessiné parfaitement, mais a surtout besoin d'être clair. Un scénario n'a pas besoin d'être écrit stylistiquement parfaitement. Enfin,
Il doit séduire suffisamment.
Le style peut être très télégraphique. Je veux dire, on n'a pas besoin de fioritures, à mon avis. Hein.
Oui,
quand j'écris un scénario, j'ai l'impression d'être en vacances par rapport à la littérature. Hein.
C'est possible,
sauf que c'est 10 fois mieux payé et ça demande 10 fois moins de travail. Je vais me fâcher avec les scénaristes. Hein. Oui, mais...
Je disais ça à quelqu'un à midi aussi, je lui disais fais du scénario, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux payé, ça demande beaucoup, beaucoup moins de travail et c'est beaucoup, beaucoup moins éprouvant, je trouve, en tout cas d'un point de vue intérieur émotionnel. Je nie pas que le scénario est très complexe sur l'art du rythme et la conduite de récit, mais un roman, c'est vraiment extrêmement éprouvant par rapport à l'activité scénaristique, je trouve.
Alors, si je peux rebondir là-dessus, je pense que c'est tout à fait vrai, mais par contre, il n'y a pas d'objet littéraire comme le scénario qui reçoit le plus d'avis. Et donc, un roman, à un moment, vous allez avoir quelques lecteurs, tests, un éditeur, etc. Et par contre, le scénario, il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui vont donner des avis dessus avant qu'il
soit... Surtout en télévision.
Voilà. Et, en plus que cinéma. Et des gens qui n'y connaissent rien, des gens qui croient savoir. Et ça, c'est la croix du scénariste.
Christophe vient de nommer la télévision... Il y a des produits, enfin les formats audiovisuels, je pense par exemple aux séries télévisées qui deviennent de plus en plus populaires en termes de format, qui répètent des schémas narratifs assez fréquemment du cliffhanger qu'on retrouve dans la chute littéraire, par exemple, en littérature.
On va retrouver ça chez les feuilletonistes aussi.
Le simple fait du passage vraiment populaire de ce genre de format n'influence pas l'écriture littéraire en tant que telle ou la production de bande dessinée, par exemple, en termes de scénario et de perspectives d'écriture pure ou d'écriture d'avenir, par exemple. Sur l'écriture d'un chapitre ou d'un premier tome d'une série, je pense à toi par exemple en tant que scénariste, ne penses-tu pas que ça peut influencer beaucoup de ça influence beaucoup de gens en termes de qualité de pas de qualité de production mais de production tout court?
Oui, je sais pas quoi répondre exactement à ça. Moi personnellement, je dans ce que j'ai créé comme produit, en bande dessinée, j'ai fait effectivement, on a sorti une série qui est assez particulière. Et en fait, par rapport aux lois du marché, on se heurte à une espèce de paradoxe. On a sorti ce qu'on appelle une série concept. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dans Alter Ego, c'est le nom de la série, il y a 6 albums qui sont sortis simultanément. Qui racontent l'histoire, mais ils ne sont pas numérotés, on peut les lire dans l'ordre qu'on veut. C'est un puzzle narratif qu'on a pris beaucoup de temps à construire et qui est un vrai jeu scénaristique qui nous a pris beaucoup de plaisir et qui visiblement fonctionne très bien sur le lecteur aussi. Ce concept est né de l'histoire. Au départ, j'ai conçu une histoire et avec Denis Lapierre, avec qui j'ai co-scénarisé, on a imaginé cette histoire et à un moment on s'est dit, tiens, ça serait quel personnage va être le personnage principal, et tout de suite il y en a 5 ou 6 qui sont sortis et on s'est dit bon, ça sera une histoire chorale où on va suivre des personnages en parallèle. Et puis très vite l'idée est venue de dire, si on faisait un album par personnage, et même si leurs lignes narratives temporelles sont parallèles, chaque album. Et donc on a proposé à l'éditeur un concept, mais entre temps et déjà depuis quelques années, le phénomène de BD concept est devenu très à la mode et on en sort un peu tous azimuts. Et moi personnellement, mon avis, c'est que les éditeurs ont très très vite scié la branche qu'ils avaient créée. C'est-à-dire qu'il y a eu une ou deux séries concept intéressantes et puis tout d'un coup on s'est dit, c'est le moyen de capter des lecteurs, du coup voilà. Et du coup il y a plein de choses qui sont pas du tout au point, où le concept préexiste à l'histoire et puis l'histoire doit rentrer dans le concept, mais il y a des albums qui sont plus faibles, etc. et tout. Et donc il y a eu un espèce de dégoût assez vite du public pour ça, et on est confronté à ce que a priori l'idée d'une série concept comme ça, qui est un attrait, en fait chez pas mal de lecteurs c'est encore un piège à lecteurs, et voilà. Donc moi c'est ça qui me fait peur, c'est que les recettes sont, alors que souvent elles partent de bonnes constatations, qu'il y a des choses qui plaisent au public, etc. et tout, mais plutôt que de les utiliser pour de la qualité, on les utilise comme une espèce de canevas sur lequel on crée quelque chose en pensant que le lecteur va y aller à l'aveugle comme ça, mais le lecteur n'est pas idiot et à un moment il se rend compte qu'effectivement après 2-3 albums le concept il fonctionne plus très bien, et donc on scie une branche qui était intéressante, et c'est une tendance un peu générale, je crois, en fiction, de vouloir toujours tirer la ficelle de ce qui marche jusqu'à ce que le public en fait en soit dégoûté, et on fait du court terme comme ça.
Ouais, moi je reviens juste à une chose là que tu disais aussi au début, c'est l'influence qu'a la scénarisation sur l'écriture des livres, notamment en science-fiction ou en heroic fantasy. Moi, il y a un effet pervers que je vois assez direct, et c'est un truc que j'aime vraiment pas et que je suis assez formel là-dessus. C'est ce que j'appelle la narration McDo, quoi, qui est tirée vraiment directement pour moi de la technique de narration des séries télé. C'est-à-dire que la narration McDo, c'est, vous faites un chapitre 1 avec un personnage A qui vit une histoire. Vous coupez l'histoire du personnage A à la fin du chapitre 1 sur un cliffhanger en disant, putain, qu'est-ce qui va se passer pour lui, etc. Vous démarrez chapitre 2, personnage B. Chapitre 3, personnage C. Puis ensuite, chapitre 4, vous faites A plus B, ils se rencontrent, nanana, il se passe un truc. Puis ensuite, vous faites A plus C, puis ensuite, vous faites B plus C au chapitre 6. Et ensuite, comme par hasard, ça stresse et puis vous avez ABC qui continue. Bon, cette technique-là, où à chaque fois, on ne fait pas confiance au lecteur, c'est-à-dire qu'on pense qu'il n'a pas suffisamment d'énergie ou d'envie de lire votre livre ou qu'il ne croit pas assez à l'histoire que vous racontez, et donc vous coupez en espérant le maintenir comme ça sur une intensité, et puis vite vous démarrez une autre histoire en disant « bon, j'enclenche là et puis je le suspends aussi », pour moi, c'est tiré vraiment dans la logique des séries télé. Ça marche en série télé parce que les durées de suspension sont assez courtes. Vous allez faire une scène de 2 minutes sur personnage A, 2 minutes sur personnage B, 2 minutes sur personnage C, puis vite ensuite vous tissez, vous entrelacez. Mais en roman, ce n'est pas du tout le cas. Vous allez mettre une demi-heure à lire le chapitre. Et donc, du coup, ce côté McDo, une tranche de lard, une tranche de fromage, un lit de salade, et puis ensuite on mélange le lard et la salade, etc. Je trouve ça super fastidieux, super lourd. Et surtout, pour moi, ça témoigne chez l'auteur d'une non-croyance à la qualité de son histoire ou à la qualité de son récit. Si vous croyez à votre récit, vous n'avez pas besoin de le saucissonner comme ça en morceaux en espérant suspendre le lecteur sur des cliffhangers pour qu'il continue, quoi. Voilà, moi, je crois à la puissance de la narration linéaire en littérature. Après, ça n'empêche pas les intrigues secondaires, ça n'empêche pas d'entrecouper, etc. Mais il me semble que si l'histoire est suffisamment forte, on n'a pas besoin de suspendre le lecteur à une falaise en espérant qu'il aille jusqu'au chapitre 5. Voilà. Donc ça, ouais, je vois une perversion liée à... trop grande consommation de séries télé, peut-être, je ne sais pas. Mais il me semble que c'est typiquement un cas de transposition de méthode narrative à un autre médium qui n'est pas justifié, qui me paraît maladroite. Enfin, en tout cas, moi, quand je vois ça, ça me saoule et je ferme le livre. Quoi. Voilà,
Ah, c'est marrant, je viens de comprendre pourquoi j'avais eu envie de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de vraiment rester avec un personnage pendant tout un album pour suivre cette narration-là et justement pas tomber dans ce travers-là qui fonctionne pas, qui a un piège à lecteur idiot, quoi.
Comme vous êtes très nombreux quand même pour le bar de Madame Spock à cette heure-ci, est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités?
Merci. Bonjour. J'ai une question pour Alain Damasio. Concernant ce qu'on a parlé d'adaptation de scénario d'un format littéraire à un format cinéma, mais est-ce que dans le cas de La Horde particulièrement, ce serait pas intéressant de se pencher sur d'autres formes de scénario? Je pensais notamment aux jeux vidéo, en tout cas perçus comme expérience narrative et interactive, qui permettrait de conserver aux joueurs du coup le statut de 24e ordier et de pouvoir passer des points de vue. De passer d'un point de vue à un autre au sein de la Horde.
Oui, il y a un jeu qui est en cours aussi, qui est à l'état de conception. Là, il y a une grosse compilation game design qui a été faite pour la Horde. C'est clair que c'est encore un autre mode de narration qui est très très différent. Là, le jeu qui est en cours, on jouerait la poursuite, on jouerait la Horde et on jouerait le vent. On jouerait trois types de personnages différents. Ce serait un jeu en ligne. Donc forcément, on va raconter quelque chose de complètement, complètement différent. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, moi, je suis assez conceptuel, donc c'est de voir comment certains types d'enjeux qui sont dans le bouquin peuvent être transcrits dans un autre médium. Par exemple, moi, je leur avais dit, là, quand ils sont venus me voir pour le jeu vidéo, je leur ai dit, faites ce que vous voulez, moi, je m'en fous, mais essayez de faire un jeu où, pour gagner, il faut être lié aux autres. Voilà, je leur ai dit, moi, l'affect que je veux rendre dans le jeu, c'est ça. Si vous êtes capable de vous articuler aux autres, que ce soit en ligne ou un jeu à plusieurs, etc., ou même avec une IA qui est en train de fabriquer les autres ordiers, si c'est le fait d'être articulé aux autres, lié aux autres, de trouver une complémentarité collective avec les autres qui vous fait gagner, pour moi, le jeu sera réussi, quoi. C'est-à-dire que vous raconterez la même chose que ce que le livre veut raconter, mais avec le médium et en jouant. Et vous aurez la récompense, la satisfaction intérieure de vous être bien articulé aux autres et d'avoir réussi. Et du coup, l'idée, une autre idée, parce qu'il y a eu deux pistes de jeux vidéo, une autre idée que je trouvais encore plus intéressante que celle qui est en cours, c'était de dire, on fait un jeu en ligne et... vous avez une horde de 23 et puis vous jouez un personnage. Quand vous arrivez en ligne, c'est comme une équipe de foot, vous complétez. Donc il reste une place au rôle de feuleuse, ben vous faites feuleuse. Il reste une place au rôle de pilier, vous faites pilier. Et c'est des gens qui ne se connaissent pas et c'est la capacité à s'articuler entre eux qui va faire que la horde va pouvoir avancer ou pas. Et ce n'est pas très différent, ce n'est pas de dire je fais un jeu de pilotage aérodynamique avec un bloc horde dans lequel je suis le chef et j'articule moi-même les différents éléments pour que ça remonte le vent le plus rapidement possible. Parce que ça, c'est juste... du management à la Tetris ou de la conduite de voiture automobile, hein, j'ai n'importe quoi là. Voilà. Mais j'aurais dit non, ça serait bien qu'on joue un seul personnage et c'est notre faculté à s'articuler aux autres qui fait qu'on va gagner tous ensemble ou pas. Tu vois. Donc pour moi, c'est notre façon de raconter la même chose en le jouant et en l'expérimentant. Voilà, il faut que l'expérience soit l'expérience du lien collectif, sinon, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Sinon, on fait du pilotage, c'est super les jeux de pilotage, mais...
Bonjour, ma question s'adresse également à M. Damasio. Je reviens sur ce que vous disiez il y a quelques instants concernant la narration McDo, on va conserver ce terme. Parce que moi, quand vous avez parlé de ça, moi je revois des choses tout à fait anciennes. Je pense au roman feuilleton, en fait. Je pense à Frédéric Souillet, aux mémoires du diable, des choses comme ça, où justement vous avez plein de chapitres, parfois assez longs, mais qui étaient rendus en journaux sous forme de quelques pages, dans lesquelles vous avez notamment dans les mémoires du diable une pléthore de personnages avec quand même des véritables cliffhangers, etc. Et on retrouve un personnage, le personnage principal, rendu à la moitié du bouquin, quoi. On aura passé 8 chapitres avec plusieurs personnages qu'on aura suivi comme ça, et pas pour dire que je suis pas d'accord avec vous, effectivement on retrouve toujours les mêmes problèmes, mais je trouve que c'est très vieux, et c'est peut-être justement la télévision qui a plutôt piqué ça à une certaine littérature qu'autre chose, et je serais pas aussi négatif que vous sur ce système, peut-être. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à récupérer là-dedans.
Ouais, je pense que vous avez raison sur le fait que la série télé a récupéré la logique des feuilletons, mais il faut penser au mode de réception. Je pense qu'un médium, c'est aussi son mode de réception, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes là, les feuilletonistes, on peut prendre Dumas, on peut prendre Balzac aussi, etc. C'est-à-dire que chaque jour, ils publiaient un certain nombre de signes dans les journaux, et il fallait que les journaux, que ça marche, que les gens rachètent de jour en jour le journal, et donc on avait un mode de réception qui était séquentiel. C'est comme les saisons de séries télé américaines où vous avez un épisode, puis un autre épisode, puis un autre épisode, et jusqu'à un temps récent, on n'avait pas cette logique asynchrone où on pouvait regarder la saison entière d'un seul coup. Là, on était obligé d'attendre de semaine en semaine d'avoir la suite, et donc il fallait suspendre la personne et lui donner vraiment envie sur un climax de suivre. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que le roman ne fonctionne absolument pas sur ce mode de réception là le roman, c'est un acte volontaire où on prend un livre, on l'achète, généralement c'est cher, et on décide de rentrer dans une longue durée de communauté avec l'écrivain, et dans l'intimité de cette communauté avec l'écrivain, et vous avez une liberté totale d'arrêter à n'importe quel moment et de dire bon, je pose, je réfléchis, j'imagine. Et donc, c'est un médium extrêmement adulte, la littérature. On n'a pas besoin de conduire par la main le spectateur ou le lecteur comme ça, quoi. Donc, pour moi, le mode de réception du roman implique qu'on respecte le lecteur, qu'on considère comme un adulte, et qu'on considère pas qu'il va lâcher au bout d'un chapitre, quoi. Voilà, c'est ça qui me déplaît là-dedans, quoi. C'est qu'il y a un mode de réception en face, et ce mode de réception, il faut en être conscient, à mon sens, sinon on plaque des logiques de médium sur... Moi, je me souviens, la première fois que j'ai fait de la série télé, la personne, elle m'a dit, écoutez, vous êtes dans un médium, ne l'oubliez jamais, où la personne peut se lever pour aller chercher une bière au frigo. Et elle est devant son écran télé, et à un moment donné, elle va se lever, elle va se rasseoir, elle va aller pisser, elle va revenir, etc. Donc, elle peut décrocher à n'importe quel moment. Donc, il faut que sur des segments de 30 secondes à une minute, vous êtes capable de toujours la tenir. Bah, je suis désolé, c'est pas la condition de réception du roman, donc j'ai pas à faire ça en roman, quoi, tu vois, c'est ma conviction, hein.
Bonjour, j'avais une question, en général, pas précisément destinée à quelqu'un en particulier, et plus savoir ce que vous pensiez en fait du fait de confier la scénarisation d'un livre à son propre auteur. Est-ce un pari risqué ou alors plutôt une garantie de la part, soit des studios de télévision ou des studios cinématographiques, de ramener des spectateurs, voilà.
Ça me semble pas indispensable de confier l'adaptation à un auteur. Pour moi, les deux objets sont totalement différents. Donc, même si le film est raté, le livre continuera à exister tel qu'il a été pensé et créé par son auteur. Donc, Moi, si un producteur était assez fou pour acheter les droits d'adaptation d'un de mes romans et essayer de le porter à l'écran, je ferais pas forcément. Enfin, je serais très content de participer à l'adaptation, mais je pourrais aussi larguer le bébé sans état d'âme si on fait un chèque conséquent. Mais tout à fait honnête.
Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en cinéma, il y a déjà un scénariste et un réalisateur, théoriquement. Dans la pratique, dans nos pays, souvent le scénariste est le réalisateur, parce qu'on est sur une tradition européenne un peu comme ça, mais c'est quand même deux métiers très différents. Et le fait est que de toute façon, il faut que la personne qui écrit le scénario, à un moment, lâche prise par rapport à la personne qui réalise le film. Après que l'auteur du roman soit impliqué ou soit l'auteur du scénario, c'est une question d'envie et de goût de la personne. Mais ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est l'intervention successive de personnes. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui écrit un scénario, après il y a quelqu'un qui le réalise, et puis ce réalisateur va monter le film avec quelqu'un, et à chaque fois, à chaque étape, il y a des apports de personnes, d'acteurs, de collaborateurs, etc. Et c'est très très différent du travail d'un romancier. Donc après que l'auteur lui-même fasse partie de ce cœur de créateurs qui interviennent dans un film, ça peut être intéressant, surtout si il en a l'envie et qu'il est prêt à... À mon avis, c'est une sorte de torture aussi. Je ne sais pas si vous allez être d'accord, M. Damasio. Mais...
Moi, je pense que c'est une mauvaise idée, en fait, de donner à l'auteur du livre la scénarisation. Moi, j'ai longtemps dit non sur la Horde, et je ne suis pas sûr d'avoir fait le bon choix. Mais j'aurais dit dès le départ, moi, j'aurais dit qu'il faut trahir. Il faut trahir le livre, il faut trahir énormément de choses dans le livre. Il faut garder l'état d'esprit, mais vraiment sauter dans l'autre médium et être complètement dans l'autre médium. Il ne faut surtout pas essayer d'être dans le respect... C'est une absurdité. Là, ils voulaient par exemple refaire la scène de Caracol qui se bat en palindrome contre le Stylite. Je leur dis non, c'est pas fait pour le médium cinéma. Je pense que c'est une connerie, quoi. Et en fait, voilà, il faut des traîtres. Il faut des très bons traîtres. Il faut des traîtres intelligents. Et si vous-même vous assurez la scénarisation de votre propre bouquin, il faut vous trahir vous-même et vous trahir intelligemment. Donc moi, j'essaye d'être dans la traîtrise. J'essaye de surtout pas refaire ce que j'ai voulu faire dans le livre. D'abord, ça m'emmerderait, parce que de toute façon, le livre est autosuffisant, il a son indépendance, il a sa puissance. Ça n'a aucun intérêt de vouloir le réduire en petit et d'en faire un produit optique et sonore pour le plaisir de le voir en optique et sonore. Je trouve qu'il a sa puissance tout seul, donc si je le fais en cinéma, c'est pour faire vraiment autre chose et essayer d'utiliser le médium avec sa propre puissance. Mais il y a beaucoup de risques, je pense, à faire ça, et je ne suis pas sûr de pouvoir faire une connerie en ayant accepté et puis en le portant en grande partie, quoi.
Pour une dernière question.
Je suis là. Mais en fait, du coup, vous avez un peu répondu. Moi, c'était plutôt sur le passage entre l'univers mental de l'auteur et de son livre et des mille et une composantes qui font le livre et des personnages, par exemple, et le passage au cinéma où on reconstruit là, du coup, ça peut être de l'animation et du coup, c'est pas en chair et en os, mais presque, en fait. Donc, comment se négocie ça entre un auteur qui a peut-être déjà des idées très précises sur comment sont ses personnages, par exemple, mais qui figurent, il y a des détails qui ne figurent pas forcément directement dans le texte, mais qu'on sait quand même. Et du coup, après, il faut transposer ça au cinéma et on doit négocier ça avec peut-être certains codes ou bien certaines contraintes, voilà. Donc comment ça se passe, comment se passe ce transfert-là ?
Il faut pas avoir une idée propriétaire de son œuvre, en fait. C'est tout est là, quoi. C'est-à-dire, il faut pas se considérer comme propriétaire de ce qu'on a fait dans un livre. De toute façon, on est traversé par immensément de choses et honnêtement, il faut arriver, que ce soit en scénario ou quand les illustrateurs arrivent, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il me fasse un Golgoth qui n'a rien à voir avec ce que j'avais en tête, ou qu'il me fasse un Caracol que j'aurais jamais imaginé, ou qu'il me fasse une ville d'Aberlas ou un village d'abrité tel que je n'ai jamais pu le penser, mais que quand je le regarde, je me dis putain, c'est magnifique, quoi. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est pas de plaquer ma vision qui de toute façon est floue, mouvante, un peu tordue, et qui apporterait pas grand chose. En plus, je sais pas dessiner, quoi. Donc, non, quand je vous dis trahir, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous êtes prolongé et trahi, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un va prendre ce que vous avez fait, il y a une puissance dans ce que vous avez fait que vous ignorez, mais lui, il l'assimile, il la métabolise avec sa propre puissance, avec son propre art, avec ses propres capacités artistiques, et ça donne quelque chose de fabuleux s'il fait ça, quoi. Voilà. Je veux dire, il y a le cas classique de Blade Runner, mais quand vous voyez Blade Runner, le livre, Blade Runner, le film, c'est un grand cas de réussite. Pourquoi ? Parce que le film, le livre en lui-même est très puissant et porte sur des choses mystiques qui sont magnifiques, mais le film a fait complètement autre chose, à mon sens, hein, vraiment, vraiment très différent. Mais c'est magnifique aussi, c'est un cas de trahison, voilà, trahison intelligente, trahison géniale, trahison qui fait que les deux médiums ont tiré le profit optimum de ce qu'ils pouvaient faire, quoi. Donc moi, j'ai pas du tout la peur de me dire, oh là là, ils vont prendre ça, ils ont pas repris ça, le village d'abrité est pas comme ça. Je m'en fous, enfin, je veux dire, voilà, il y a 10 000 façons de faire un village d'abrité bien plus intéressante que ce que j'ai fait dans le livre, quoi, si on creuse vraiment, quoi. Donc laissons les gens faire, et quand il y a des gens de talent, l'important c'est d'avoir des gens qui soient brillants, quoi. Et s'il y a des gens brillants, ils feront quelque chose de brillant, forcément, avec ce que vous avez posé, quoi.
Le monsieur, là, qui avait une question depuis le début, mais on ne le voit pas bien parce qu'il est dans le monde. On peut lui passer le micro ? Il n'y a plus de micro ? Il est parti.
Alors, après le jeu vidéo, c'était toujours pour poser une question sur les formats. Il y a un format qui n'est pas beaucoup travaillé en France, qui l'a été un peu plus en Angleterre. C'est la fiction radiophonique, qui est aussi un travail d'adaptation un peu particulier. Alors, Alain Damasio disait en début de table ronde qu'il était plutôt sonore. Du coup, est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous êtes confronté ou auquel vous auriez envie de vous confronter ?
Je ne l'ai pas encore fait, mais j'en rêve. J'en rêve. La seule fois où j'ai vraiment été profondément ému par la reprise sur la Horde, c'est pas été sur les images qu'on a fait. J'ai eu beaucoup d'images, beaucoup de choses. C'est le moment où un comédien qui est maintenant à la Comédie Française, qui est un gars extraordinaire, a fait la présentation de la Horde par Caracol, hein, donc le troubadour du. Il l'a fait en improvisant complètement au niveau des tons, des accents, du rythme et c'était fabuleux. J'ai entendu enfin le texte, quoi, tel que moi je l'avais intérieurement. Et c'était magnifique. Donc moi, un de mes grands rêves, mais pour l'instant on n'a pas les moyens, j'en ai parlé beaucoup avec mon éditeur, c'est faire un livre audio de la Horde, mais un livre audio tel que ça n'a jamais été fait, quoi. C'est-à-dire vraiment avec une mise en son, une mise en espace sonore puissante, avec autant de voix qu'il y a de personnages, et qu'on entende tout, voilà. Mais uniquement par le son, c'est-à-dire que la narration passe entièrement par le son, et qu'on puisse se poser dans son lit, écouter ça, et puis y être, quoi. Et ça, je pense que ça serait le médium le plus beau pour moi, ouais. Parce que je suis auditif, hein, c'est vrai, donc moi ça me percute moins les images quand même. Donc je rêve de ça, ouais. Ouais.
Allez, on va croiser les doigts que ça existe un jour.
Vu l'heure, vu qu'il est 16h et que c'est la fin de la conférence, je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde à cette heure-ci sur un si petit espace. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de festival.